Nous avons oublié quelque chose.
Oui, nous avons oublié que si l'on rechigne aujourd'hui à parler de l'amour, s'il est presque inconcevable de poser la question de l'amour comme une question irrésolue, voire même comme une question qui reste à inventer, ce n'est pas sans raison. Une raison qui s'est fait entendre, il n'y a pas si longtemps, dans les voix de celles qui battaient les pavés en chantant « Oui papa, oui chérie, oui patron, y en a marre ».
Je me souviens de la première remarque que j'ai faite qui démontre, je devais avoir environ 10 ans, que quelque chose me semblait anormal. J'ai dit à mon père, pourquoi c'est toujours maman qui sert? Et papa m'a répondu une phrase qui m'a mis en colère, mais je n'arrivais pas à expliquer pourquoi. Il m'a dit, quand c'est ce qu'on aime, ça ne s'appelle pas servir.
Fille homéraine, depuis toujours maquillée à vous-même, n'est-il pas temps que vous vous aventuriez là où ni vous ni les autres ne vous attendent? Croyez-vous vraiment tromper votre famille en vous rassemblant pour vous ressembler? Vous suffit-il vraiment qu'on vous dise femme jusqu'à la crétinisation pour renoncer à partir au-devant de votre énigme et préférer bivouaquer indéfiniment dans les villages vacances de la nouvelle féminité? Jusqu'à quand vous laisserez-vous acculer chaque jour à sacrifier une parcelle de vous-même pour servir, non votre cause, mais la cause de quelques femmes servantes du vieux monde? Il ne s'agit plus de servir, mais de partir.
Nous avons oublié que l'amour a longtemps été le lieu d'une grande arnaque, celle qui a consisté à superposer, jusqu'à les faire parfaitement coïncider, l'éducation sentimentale et la division sexuelle des tâches. Celle qui a consisté à vouer les femmes à l'amour et au complexe de services liés à l'entretien de la vie, et faire de cela une seule et même vocation. Mais alors, si c'est ça, il ne suffit pas pour s'en sortir de séparer le sexe et les sentiments.
Pourquoi?
Écoute bien.
Libérer la sexualité de la gangue qui l'entoure ne signifie pas renoncer à jamais à l'amour ou à la possibilité de soutenir matériellement et psychologiquement son mari ou son compagnon. Mais ce soutien serait librement offert et non socialement contraint.
Et voilà, tu as entendu? On se propose de couper le lien qui emprisonne la sexualité féminine en l'attachant à une série d'obligations de service. Et on croit la question réglée quand on a rendu le don de soi volontaire. Mais on n'a rien fait du tout. On nage toujours dans la plus naïve et la moins innocente conception de l'amour comme don de soi et service des biens. Qui veut faire l'ange, fait la bête. Le problème, c'est cette conception pauvrette des sentiments, comme s'il n'y avait dans l'amour aucune ambivalence, comme si aimer ne se disait jamais haïr.
Oui, il est beaucoup plus facile de dénoncer, disons, la domination masculine que de prendre acte du fait que les femmes sont, ou ont longtemps été, les dupes complaisantes d'une conception de l'amour comme service des biens, dans laquelle le service sexuel est un service parmi d'autres, offert à ceux qu'on aime. Combien de générations de femmes se sont offertes en sacrifice à cette conception de l'amour? Bon, maintenant, la question, c'est comment s'en sortir de cette arnaque?
Il faut peut-être chercher du côté des gays et des lesbiennes. C'est peut-être là que s'inventent d'autres manières d'aimer.
On observe une évolution divergente de l'hétérosexualité et de l'homosexualité depuis les années 60. La sexualité est devenue le matériau amoureux qui cimente la conjugalité hétérosexuelle. Le couple se construit à partir de son expérience sexuelle. Pour les gays, ce n'est pas le couple, mais l'identité des individus et de la communauté qui est fondée sur l'expérience de la sexualité. D'un côté, on peut imaginer que les gays et les lesbiennes se conforment à la norme hétérosexuelle pour fonder pareillement le couple sur la sexualité, mais du même coup réduire la sexualité au couple. D'un autre côté, on sait que nombre de gays peuvent non seulement refuser de limiter le sexe à la conjugalité, mais aussi, plus radicalement, les dissocier en renvoyant la sexualité en dehors du couple, autrement dit, en désexualisant la conjugalité.
Désexualiser la conjugalité, cela ne veut pas dire désexualiser l'amour. Mais en réalité, il n'est pas du tout question ici de l'amour. Et l'on voit bien qu'il est possible de suivre les aventures du lien entre conjugalité et sexualité, à la lumière du problème de l'identité.
La sexualité ne fonde plus l'identité, elle la subvertit.
En laissant entièrement de côté le problème de l'amour, quitte à ce qu'il se repose, éternellement identique à lui-même, quelques pas plus loin. Car chaque rencontre amoureuse éclaire d'une lumière qui ne se laisse pas facilement éteindre cette question du lien entre conjugalité et sexualité. À moins que l'on ait décidé de se délester du problème, car, au fond, ce que rend tangible l'idée d'une désexualisation de la conjugalité, en faisant disparaître la question de l'amour, c'est que celui-ci, comme Dieu pour le physicien Laplace, est une hypothèse dont on peut se passer.
Depuis 8 siècles, l'Occident et sa civilisation marchaient clopin-clopant, chaussés des sabots, amour et mariage. Peut-être, ayant dû se défaire de choses devenues incapables de le soutenir, essaie-t-il aujourd'hui d'apprendre à avoir l'air à l'aise en toute occasion, dans ses baskets, sexualité plastique et conjugalité temporaire. Entre-temps, l'amour semble être devenu, sans qu'on y prenne garde, une hypothèse dont chaque existence doit décider, soit de l'affirmer, soit de s'en passer. Et il en va probablement de même du communisme.
L'hypothèse de l'amour n'est pas une hypothèse spéculative, mais existentielle. Ce n'est pas une hypothèse métaphysique, mais une hypothèse sur la métaphysique. Parmi les idées que le dualisme occidental présente comme opposées, il y a celle du masculin et du féminin. Il est impossible d'aborder la question de l'amour sans s'accorder sur le statut que l'on donne aux notions de masculin et de féminin, et aux énoncés quant au mode de relation qui en découle. Le postulat dualiste, selon lequel les genres renvoient à des réalités substantielles dotées de traits qualitatifs opposés, n'a rien d'une évidence. Je trouve plus satisfaisant de penser que la différence des sexes renvoie à une bipolarité de la vie, telle qu'en chaque humain, il y a du masculin et du féminin. La séparation, quelle qu'en soit la raison, peut être prise comme une sorte de fiction durable ou d'hypothèse pour persévérer dans l'existence, ou mieux encore, comme un point de départ pour ouvrir le champ des possibles plus large, le champ d'élaboration de la curiosité et de l'attrait des contraires, hors de soi, qui permet aussi une élaboration de la relation entre pôles opposés, en soi.
Lorsque dans le banquet Socrate en vient au discours proprement dit sur l'amour, celui qu'il doit prononcer en son nom pour dire ce qu'il en est de l'amour en vérité, il fait parler Diotim. Le philosophe fait taire la dialectique pour laisser parler le mythe, c'est-à-dire, comme dit Lacan, la femme qui est en lui.
Le contraire de 1, 2, non plus principe de séparation, mais générateur de réciprocité.
C'est quoi la réciprocité ?
Le double sens en toute chose.
On en vint à discourir sur le sexe des âmes. Des questions se posent. L'âme de la femme est-elle du sexe féminin ? L'âme de l'homme est-elle du sexe masculin ? Ces âmes seraient-elles hermaphrodites, à moins que d'aucun sexe ? Finalement, je propose, si nous en appelions à nos âmes, soit accède Diane. Un continent, la lampe éteinte,
l'un et l'autre de nous enchanter au moyen de caresses sonores, ces notes de musique, des intimes évocations, tout en nous embusquant soigneusement derrière un simulacre de sommeil, les cils mariés avec entre eux une arrière-pensée de divorce. La lune montait à l'été les étoiles. Ici-bas, c'était l'heure où les fantômes sortent des cavernes relatives pour aller boire. Le fantôme, indigène de l'universelle cécité, ne daignant émaner que lorsque s'est dissipée toute crainte d'être vu, nos yeux s'efforçaient de s'annihiler de plus en plus sous la paupière à la manière des louis, dans un gousset d'avare, sans toutefois cesser de nous guetter mutuellement. Un jet de lait firmamental
descendit ébauchée au milieu de nous, comme une fine main de sage-femme. Cela devenait étrange. Enfin, le charme opérant, voici qu'une forme, plus ténue qu'un convive de miroir, émane de chacun, d'elle un faune, de moi une nymphe.